Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine sur In Power, j'accueille des entrepreneurs, des artistes, des créateurs ou des créatrices, des passionnés qui ont pris le pouvoir de leur vie. Et cette semaine, c'est un champion olympique et président du plus grand événement sportif du monde que je reçois. J'avais vraiment hâte d'accueillir Tony Estanguet au micro d'In Power, car je suis extrêmement admiratif du parcours des sportifs de haut niveau de manière générale, mais Tony Estanguet est en plus le seul triple champion olympique français, toutes disciplines confondues. Sur une période de plus de 16 ans, il a remporté 3 fois la médaille d'or en canoë slalom. Ce parcours est déjà en lui-même incroyable et pourrait nourrir un podcast passionnant, mais Tony Estanguet est en plus le président des Jeux Olympiques de Paris 2024. Je ne sais pas si vous imaginez l'ampleur d'un tel événement et de son organisation. Tony s'est lancé dans cette aventure il y a 7 ans, en proposant le projet des Jeux Olympiques à Paris, alors que 5 refus avaient déjà été essuyés les décennies précédentes. Dans cet épisode, on aborde le sujet de la confiance en soi, du rapport à l'échec, de la comparaison, mais aussi du leadership, de la remise en question, de la croissance et des défis. Bref, un épisode riche en enseignements et en inspiration, et j'espère qu'il vous plaira tout autant qu'à moi. Si vous appréciez écouter In Power, c'est en vous abonnant et en parlant autour de vous que vous pouvez le plus le soutenir. Et si vous êtes extra, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et me partager en commentaire vos retours sur In Power. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre cette conversation avec Tony Estanguet. Bonjour Tony.
Bonjour.
Bienvenue sur In Power. Je suis très contente de te recevoir sur le podcast, même si au final on est chez toi ici.
Mais ouais, bienvenue à toi Louise à Paris 2024.
Ouais,
c'est chouette de t'accueillir ici.
C'est super beau et ça donne envie. Je trouve qu'on sent un peu l'ambition du projet aussi, ne serait-ce que par ce lieu. Avant d'en venir à parler de tout ça, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
Ah ah. Et c'est pas le plus simple en fait, parce que moi j'ai plusieurs casquettes. Hein. C'est vrai que j'ai été athlète, aujourd'hui je suis président de Paris 2024. Comment je me présente? Moi j'aime les défis en fait. Je pense que c'est ça qui m'a guidé pendant toute ma vie, depuis tout petit en fait. Je suis tombé dans une famille de sportifs et depuis tout petit j'ai été confronté à me mettre un peu au défi de faire des choses un peu exceptionnelles parce que j'avais des grands frères qui étaient très bons en sport et donc depuis tout petit j'étais dans un canoë, sur des skis, dans des défis sportifs depuis l'âge de 4-5 ans. J'ai fait du parapente, je pense que je maîtrisais pas tout mais j'avais envie de faire partie de cette dynamique familiale autour du sport et je pense que ça m'a accompagné. Donc voilà, aujourd'hui, à 43 ans, je continue à aimer les défis, à me mettre dans des situations de défis. Mmh. C'est mon adrénaline, c'est ce qui m'oblige, entre guillemets, à continuer à apprendre, à me remettre en question, à rencontrer des univers que je connais moins bien. Et j'adore ça, en fait, les défis. Ouais.
Écoute, c'est passionnant et ça, déjà, il y a plein de questions qui me viennent, mais je me demandais quand même, qu'est-ce qui fait que parmi peut-être tous ces sports que tu as pu tester, voilà, qu'est-ce qui fait que c'est le canoë qui emporte un peu ton cœur? C'est vrai que c'est quand même un sport assez peu connu du grand public. En plus, personnellement, ce que je me dis de prime abord, c'est... Bah, en fait, c'est terrible parce que tu ne maîtrises, je ne sais pas combien de pourcents, mais en tout cas, pas 100% de ta performance. C'est peu commun. Qu'est-ce qui fait que c'est le canoë auquel tu choisis de te consacrer?
Alors moi, j'ai essayé beaucoup de sports, effectivement, parce que mon père était prof de sport. Donc, il nous a donné un peu cette éducation sportive et on a essayé des sports collectifs, des sports intérieurs, des sports d'extérieur. Mais c'est vrai qu'on a assez rapidement trouvé beaucoup de plaisir à pratiquer ces sports de nature, donc vraiment en extérieur, parce qu'il y avait ces sensations de vitesse, d'équilibre, de trajectoire, de renouvellement aussi. Souvent, quand on fait que ce soit du canoë-kayak ou d'autres sports dans la nature, en fait, la nature, elle bouge. C'est jamais la même. Les rivières sont jamais les mêmes. Même si vous naviguez sur la même rivière, en fonction des précipitations, les rapides ne sont pas exactement pareils. Donc, à chaque fois, vous devez vous adapter. Vous devez découvrir quelque chose et réagir, vous adapter. Voilà. Donc, moi, j'ai aimé le canoë-kayak parce que ça m'a fait découvrir des univers assez chouette, des rivières pyrénéennes ou dans les Alpes ou des rivières sur le continent américain très larges, très différentes, ou en Afrique, avec des animaux au bord des rivières. Enfin, c'est, à chaque fois, il y a une découverte d'un pays, c'est très sauvage, c'est des valeurs autour de la nature. Donc j'ai beaucoup aimé ce sport et c'est vrai que la compétition est arrivée dans un deuxième temps. Mais au début, c'était vraiment les sensations de plaisir et l'adrénaline.
Et ça, je trouve que c'est assez beau en fait, chez les sportifs. C'est qu'au final, j'ai l'impression que ce sont peut-être pas les seuls, mais en tout cas les premiers à se dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils aiment, leur carrière. Ce qu'on est moins encouragé au final à faire une fois qu'on est un peu dans le système éducatif. Alors qu'en fait, avec les sportifs, ils vont assez naturellement se dire « mais en fait, j'adore faire ça, ça me procure ces sensations ». J'ai envie d'y consacrer ma vie. Toi, qu'est-ce qui fait que quand même tu le conscientises ? Et peut-être, qu'est-ce qui fait que tu ne te dis pas ce que certains peuvent se dire, à savoir, s'il n'y a que très peu d'élus, qu'est-ce que je ferai après ? Ça fait peur quand même se dire qu'on choisisse cette voie assez atypique.
Ouais, en tous les cas, moi, je suis d'accord avec toi. Et aujourd'hui, mon combat, c'est de voir comment est-ce que le sport peut occuper une place un peu plus importante dans la société. Le sport a changé ma vie. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'autour de moi, j'avais un entourage qui m'a autorisé, accompagné, soutenu dans cette voie, dans le sport. Mais c'est vrai que ce n'est pas la voie classique. Aujourd'hui, quand on est passionné de canoë-kayak, il y a peu de familles qui vont dire « Vas-y, fonce, tu vas en faire ta vie et tu vas gagner de l'argent et tu vas avoir une reconversion grâce à ça ». À l'époque, personne ne connaissait le canoë-kayak et c'était un pari un peu fou. Mais ça montre combien, quand même, quand on croit en quelque chose, quand on est ambitieux, quand on vise assez haut, entre guillemets, et qu'on croit assez à sa passion, on peut faire des choses assez incroyables. Et en général, dans le monde du sport, je trouve qu'il y a des opportunités qui sont souvent sous-valorisées. Je trouve que le sport aujourd'hui apporte du bien-être à notre société en matière de santé, en matière de lien social, en matière d'éducation. Ça a des impacts sur la société et pourtant c'est un peu souvent sous-considéré, un peu mis de côté, que ce soit à l'école ou on voit bien que c'est pas une priorité et ça doit pas forcément devenir la priorité, mais je pense qu'on a une marge de progression pour donner un peu plus de place à la pratique sportive et d'essayer d'en faire un peu un quotidien pour les Français. Parce que, ne serait-ce que pour des raisons de santé, aujourd'hui, on est à risque avec la sédentarité qui gagne du terrain. Toutes les études démontrent à chaque fois qu'on est une population qui est de plus en plus sédentaire, avec des conséquences sanitaires qui sont graves. Et pourtant, la solution, elle existe. Elle n'est pas très coûteuse. C'est de pratiquer 30 minutes de sport ou d'activité physique par jour. Ça peut être de la marche, ça peut être monter les escaliers, ça peut être se bouger un petit peu. Mais ça, malheureusement, 80% de la population ne le fait pas. Donc, comment est-ce qu'on arrive à secouer un peu tout ça ? On va organiser les jeux. On a envie qu'en héritage, les gens se disent « c'est chouette les émotions du sport à la télé, mais moi, est-ce que j'en fais suffisamment et est-ce que je m'occupe suffisamment de moi, en fait ?»
C'est vrai que je pense que... En plus, j'ai des souvenirs de ma famille quand on regardait les jeux, quand j'étais beaucoup plus jeune. Et il y a un truc très fédérateur, même quand on ne fait pas de sport. Mais je pense qu'il y a un peu une dichotomie dans la tête des gens entre le sport de haut niveau qui est hyper noble, qui fascine, et le sport de tous les jours, en fait, où ouais, je pense que les gens ne le considèrent pas forcément de la même façon, alors qu'au final, les bienfaits sont là dans les deux cas.
Ouais.
Même si c'est vrai que bon, ça reste particulier le fait d'être sportif de haut niveau. Et personnellement, ce que je me suis vraiment demandé, toujours demandé par rapport aux sportifs de haut niveau, c'est comment on fait quand au final, notre vie est tellement régie par les résultats pour ne pas s'oublier là-dedans. C'est-à-dire, comment on fait ? Parce que, voilà, quand même, on n'est pas, on n'est pas défini par ce qu'on fait, mais je trouve que pour un sportif de haut niveau, c'est particulièrement difficile à vraiment réaliser. Et donc, en fait, je me dis, mais comment on n'est pas au bout du rouleau quand on a fait un mauvais entraînement, quand on perd une grande épreuve ? Comment on fait pour ne pas se définir uniquement à travers ça ?
Ouais, non, tu as raison, en fait. Je pense que le résultat doit être la conséquence et pas le moteur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui fait tenir souvent les athlètes dans la durée, c'est bête à dire, mais ça reste le plaisir. Et donc, tu as raison de dire, aujourd'hui, on a tendance à opposer un peu le sport amateur, le sport professionnel, alors qu'au final, on a tous commencé le sport en tant que gamin et à l'époque, on n'imaginait pas. Moi, je connaissais personne qui avait fait les Jeux Olympiques. Pour moi, c'était absolument pas la motivation première de faire du sport. Et si j'ai continué ensuite, j'ai franchi des étapes, mais c'est vraiment parce que je m'épanouissais d'abord en pratiquant le sport. Cette sensation de plaisir, c'est une école de la vie incroyable. C'est aussi un moyen de se faire des copains, c'est un moyen de s'amuser tout simplement.
Ouais.
Ça, il faut qu'on arrive à le préserver, à mieux le faire passer, parce que comme tu le disais... Il ne s'agit pas de demander aux Français de devenir des sportifs de compétition, mais juste de trouver du bien-être à pratiquer un moment de sport, une activité physique. Ça peut être seul, ça peut être à plusieurs. Il y a mille et une façons aujourd'hui de trouver une activité qui vous ressemble et dans laquelle vous allez prendre du plaisir. Mais ça va avoir un bénéfice pour vous direct. Et les sportifs de haut niveau, je pense qu'ils arrivent à durer dans le temps, sont ceux qui régulièrement prennent de la distance par rapport aux résultats, malgré les bonnes nouvelles ou de temps en temps les échecs, en continuant à prendre du plaisir, à apprendre. Moi, ça a été un moteur pour moi de continuer à apprendre. J'ai fait 4 fois les Jeux, mais dans ma dernière Olympiade, j'ai eu l'impression que c'était l'Olympiade où j'ai le plus appris. Je ne sais pas si toi, aujourd'hui, tu vis ça, mais souvent, les gens autour de toi te disent « Mais là, tu t'engages dans un truc, ça va être compliqué. » Moi, après mes 3e jeu, on m'a dit « Pourquoi tu repars, quoi ? Enfin, tu ne vas plus progresser. Tu as passé 30 ans. Après 30 ans, on ne progresse plus en sport. » C'est fou. Enfin, y a souvent une tendance à se mettre des limites alors qu'on a tous un potentiel incroyable. Et encore une fois, ce n'est pas que dans le résultat qu'on doit l'évaluer, ce potentiel. C'est d'abord comment est-ce que moi, je me retrouve là-dedans, je m'épanouis, je prends soin de moi et je profite.
Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a tellement de pensées limitantes. C'est vrai qu'en ce moment, les auditeurs et auditrices du podcast le savent, je me fascine beaucoup par le pouvoir du cerveau. Et en fait, c'est assez dingue, en fait, le pouvoir qu'a le cerveau et à quel point, en fait, il peut être limité juste par ce qu'on croit. Et il y a une étude comme ça qui prouvait, je crois que c'était pour le 100 mètres, ou enfin, en tout cas, voilà, pour une course un peu rapide, où en fait, tout le monde disait que c'était impossible de dépasser un certain chrono. Et une fois que personne l'a fait, la même année, il y en a eu une dizaine. Juste parce qu'en fait, le fait de se dire que c'est possible, on débloque quelque chose en nous qui nous permet d'y arriver.
La puissance de nos pensées parasites, c'est dingue, quoi. Quand on s'auto-convainc qu'on ne va pas y arriver. Et ça, ouais, c'est la gestion du stress. Souvent, nous, on nous demande comment est-ce qu'on gère les émotions quand on est au départ d'une finale olympique où on s'est entraîné pendant 4 ans et que tout va se jouer sur quelques secondes. Mais quelque part, tout ça, ça s'apprend. Et moi, j'ai travaillé avec des entraîneurs, j'ai travaillé avec un psychologue, j'ai travaillé avec des gens parce que c'est hyper intéressant. Gérer ses émotions, gérer ces moments-là, c'est hyper intense. Et aujourd'hui, même si j'ai arrêté ma carrière de sportif de haut niveau, je continue à vivre ces défis, ces moments d'ambition, d'émotion. Et je trouve que le sport, encore une fois, est une bonne école de la vie parce que c'est un endroit où on apprend à tomber, à se relever, à apprendre, à relativiser les choses, à garder un peu d'humilité, mais aussi à se dépasser, à s'accrocher quand c'est dur. Dans le sport, on est un peu obligé, même quand on n'a pas envie. Moi, je me souviens des entraînements, il fait froid l'hiver, aller dans l'eau, dans les rivières, c'est pas drôle.
Ouais.
Mais je trouve que ces moments-là, aujourd'hui, je me dis, mais merci de me les avoir fait vivre parce que je savoure encore plus finalement tout ce que je vis, quoi.
Il y a une phrase très belle que j'avais relevée, que tu avais dite justement par rapport notamment au canoë, c'est « La rivière m'a appris que rien ne se passe jamais comme prévu
». Ouais.
Et en fait, je me suis dit, en effet, c'est pas trop dur pour un athlète que tout ne dépende pas de toi et comment tu trouves l'équilibre entre le contrôle et le lâcher prise.
Ah ouais,
parce qu'en fait, c'est moi. Alors franchement, si tu veux me donner des billes, c'est
la
trop
bonne
dur.
Question. Et c'est ce que j'ai adoré dans ce sport.
Okay.
C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un d'assez rationnel quand même, et j'aime bien contrôler les choses. J'aime bien me préparer. Je suis un bosseur et je passe vraiment beaucoup de temps en général à me préparer pour une échéance quelle qu'elle soit. Et effectivement, pour réussir dans mon sport, ça suffit pas. parce que c'est tellement aléatoire. Ouais. Il y a tellement des moments où la vague, elle va soit monter, soit redescendre, soit elle va rouler, soit elle va être lisse. Le courant, il peut vraiment partir à droite ou partir à gauche en fonction du moment où on passe. Et pourtant, il y a des portes à aller chercher. Donc il faut vraiment s'adapter dans le moment. Et donc, c'est en permanence cet équilibre entre je me suis préparé, je sais exactement ce que je dois faire dans les différentes cas de figure, mais je reste ouvert. Même si j'ai bossé comme un fou et que je sais exactement mon sujet, je le maîtrise parfaitement, je reste ouvert aux imprévus. Et même aujourd'hui, moi, dans mon travail, je garde ça. C'est-à-dire que pour organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est un énorme travail de planification. Tous les jours, on a des choses à faire. Chaque semaine, il y a un suivi pour savoir est-ce qu'on maintient les délais. Mais toutes les semaines aussi, il y a des imprévus. Et quelque part... je sais encore aujourd'hui qu'il va se passer dans les deux prochaines années, avant la cérémonie d'ouverture, plein de choses qui vont nous obliger à prendre des directions un peu différentes parce qu'il va y avoir des difficultés qu'on va devoir surmonter, qu'on va devoir adapter. Et donc, moi, j'ai trouvé ça passionnant dans ce sport, cet équilibre, comme tu le disais, entre je maîtrise, j'essaie de limiter au maximum les imprévus en bétonnant, entre guillemets, tout ce que je peux bétonner. Et donc, physiquement, je dois être... une machine de guerre, techniquement je dois maîtriser tous les gestes que j'aurai à faire, mais je sais aussi que ça va se jouer dans l'instant T et qu'il va falloir s'adapter. Et l'adaptation, finalement là aussi, d'un point de vue, tu parlais du cerveau tout à l'heure, le cerveau, il y a un potentiel incroyable d'adaptation, on a des ressources qu'on ne soupçonne pas, et moi je me souviens m'être transcendé dans des moments de sport, où moi le premier, j'avais l'impression... De faire des trucs que je n'avais jamais fait à l'entraînement. Et parce que il y a une espèce de lâcher prise où quelque part ça vous dépasse et vous faites un peu confiance et du coup vous faites des trucs que vous n'avez jamais réussi à faire avant. Et ça, c'est des moments très rares, un peu où on a l'impression de voler, on a l'impression de... et on ne sait pas l'expliquer, mais pour moi c'est on peut pas vivre ça si on l'a pas préparé, si on l'a pas vraiment anticipé chaque détail, quoi.
Ouais. Et justement, pour terminer sur un peu sur l'aspect préparation mentale, parce que au final peu de gens bénéficient de ce type d'accompagnement dans leur carrière, est-ce que peut-être tu peux nous partager les principaux enseignements que t'en as ressorti, toi? Qu'est-ce qui t'a aidé en fait dans cette préparation mentale, peut-être des choses dont t'avais pas conscience avant et que tu gardes encore aujourd'hui dans ton travail?
Je me souviens, moi, la première fois que je suis allé voir un psychologue, c'était vraiment tellement tabou en France, c'était une faiblesse en fait, d'essayer d'aller travailler avec des professionnels sur le sujet, alors que ça m'a tellement apporté derrière. Mais moi, ce que j'en ai retenu assez rapidement, c'est pour réussir de grandes choses, il faut être très ambitieux. Il faut pas avoir peur de l'être. Parce qu'en France, souvent, on a un peu de mal avec les gens qui sont ambitieux. On les trouve un peu prétentieux et on n'aime pas trop ça. Et alors que l'ambition, si elle est bien partagée, bien exprimée, c'est un moteur de réussite incroyable. Et il faut pas avoir peur de se fixer des objectifs ambitieux. Parce que pour gagner, il faut pas viser la 10e place, quoi. Et donc, il faut assumer une forme d'ambition. Et du coup, derrière, de temps en temps, ça génère du stress. Mais c'est comment est-ce qu'on gère ce stress? Mais la première étape, c'est quand même, il faut être ambitieux. Après, moi, ce que j'ai appris, c'est qu'effectivement, il faut se donner les moyens de ses objectifs. Donc, on peut être ambitieux, mais derrière, il faut bétonner une méthode de travail, une rigueur. Et quelque part, la puissance du cerveau fait que souvent, quand on se fixe sur un objectif très ambitieux, derrière, ça nous oblige à nous organiser et à mettre les moyens. Il y a la relation au temps, c'est-à-dire qu'il faut être bon au bon moment et accepter aussi qu'il y a des moments où il ne faut pas être forcément le meilleur, parce qu'on ne peut pas être le meilleur tout le temps et être tout le temps en pleine forme. Et donc, moi, je me souviens avoir appris que c'est normal d'avoir des phases où on est un peu moins bon, et c'est juste qu'on ne peut pas se permettre de ne pas être bon le jour de la finale, quoi. Là, il faut être au rendez-vous. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant.
C'est hyper intéressant, et tu as abordé un peu le sujet du stress qui, je pense, pour le coup, touche tout le monde, quoi, quel que soit notre métier. Comment on fait pour ne pas se laisser envahir par le stress? C'est-à-dire que je pense vraiment que quand tu as un enjeu tel que les Jeux Olympiques, que tu as fait du coup à de nombreuses reprises, on y reviendra, mais comment on fait pour ne pas perdre tous ces moyens, pour ne pas imaginer le pire scénario, parce que c'est vrai que tu vois, parfois je lis dans le livre, il faut pas y penser, il faut se concentrer sur le positif, mais en fait, enfin, parfois c'est plus fort que toi, tu
bien
vois.
Sûr,
donc ça, comment ça on fait rattrape, pour ne pas se laisser bouffer, si je peux me permettre l'expression, par le stress?
Alors moi, encore une fois, il y a eu plusieurs choses qui m'ont apporté beaucoup. C'est encore une fois être au clair sur les objectifs. Souvent, moi, les moments où j'ai été trop stressé, c'était le moment où il y avait un décalage entre l'objectif que je me fixais et mon niveau de préparation. Mm. C'est-à-dire qu'en gros, si je me fixais de gagner alors que j'étais pas prêt, ben, le corps, comme par hasard, il sent qu'il y a un problème et on est stressé, on n'est pas bien. Donc, il y a un niveau de confiance qui vient quand on sent que l'objectif il est ambitieux, c'est-à-dire que c'est loin d'être gagné, mais il est réaliste, il est atteignable. Et ça, c'est hyper important, parce que souvent, quand on arrive à faire ce gros travail de fixer le bon niveau d'objectif, qu'il soit suffisamment motivant, mais atteignable, ça permet d'être moins stressé, parce qu'on sait qu'on peut le faire. Mmh. Et après, une deuxième astuce pour moi, c'était de rester dans le moment. Souvent, moi, je stressais quand je pensais aux conséquences de ce que j'allais faire, et du coup, aux résultats de ce qui allait se passer. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va m'arriver si je gagne pas, ou si je gagne, ou si... Alors que quand on est dans l'action, on est dans l'action. On n'est pas dans la gestion du résultat, on est dans l'action. Et souvent, le stress, il vient quand on n'est pas dans le moment présent. Quand on est en train de s'imaginer qu'est-ce qui va m'arriver, si j'oublie un truc, s'il se passe ça. Ou... C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le moment. Pour ne pas être stressé, il faut se dire, là je suis en train de faire ce que j'ai à faire, si je veux réussir, je reste concentré sur le moment. Si je suis à un examen, je reste concentré sur les questions et je ne suis pas en train de m'imaginer. Et si j'ai telle note, qu'est-ce qui va m'arriver? Ou si je n'ai pas cet examen, qu'est-ce qui va m'arriver? Non, là, je suis en train de rester concentré sur ce que j'ai à faire. Et donc, c'est cette rigueur de se dire, je reste dans le moment. Et dès que je sens que mon cerveau a une pensée parasite sur je suis en train de me projeter sur ce qui va m'arriver, si, hop, j'essaie de me retrouver une petite solution. Et moi, j'avais c'était des exercices de vision. Mmh. J'avais des exercices de vision centrale. Je pense à mon micro. J'ai le micro devant moi. Ça me permet de me reconnecter au podcast qu'on est en train de faire ensemble. Mmh. Et je suis pas... Si mon cerveau est en train de vouloir aller à ce qui va m'arriver dans 2 jours, dans 3 jours, non, je reviens là et je trouve un objet autour de moi.
Un ancrage.
Un ancrage qui me permet de me raccrocher au moment présent.
Ok, non mais c'est vrai, c'est très puissant et c'est l'anxiété, c'est ça, c'est l'anticipation du futur, alors qu'en vrai ça nous dessert et c'est vrai que bon, dans les examens, généralement aussi je me disais, en vrai, je peux juste faire de mon mieux et j'essaye de me rappeler ça maintenant, c'est que tu peux pas exiger plus que faire de ton mieux.
Exactement, et, souvent, et ne pas vouloir contrôler ce qui n'est pas contrôlable par toi en fait, c'est-à-dire qu'il y a des décisions qui ne t'appartiennent pas, qui vont dépendre aussi d'autres personnes, ça là il faut pas vouloir les maîtriser parce que ça génère du stress.
Ouais.
Et par contre, il faut être exigeant avec soi-même et être le meilleur possible avec soi-même, mais accepter que si l'adversaire il fait un passage de fou, et quelque part, tant mieux pour lui. Mais ça, je ne peux pas maîtriser mes adversaires. En tous les cas, dans certains sports. Dans certains sports, on peut, mais dans certains sports, on ne peut pas. Et donc, il faut rester concentré sur ce qu'on maîtrise et sur ce qu'on peut faire, surtout.
Mais justement, pour parler des adversaires, toi, tu as eu une longue rivalité avec, j'espère ne pas écorcher son nom, Mikal Martikan.
Bravo.
Voilà, ok, génial. Qui du coup, arrive notamment deuxième au premier jeu auquel tu as remporté la médaille d'or. Comment on fait aussi, parce que je crois qu'il avait gagné les jeux précédents,
c'est ça.
Pour ne pas se comparer à des personnes comme ça, quand il y a une rivalité, il y a un niveau très proche, et quand généralement on est dans le cas où on a perdu, je pense que c'est assez facile, là aussi, quel que soit au final notre secteur d'activité, de se comparer au meilleur que nous, de se flageller, et en fait ça ne nous sert pas quoi. Donc je sais pas comment toi tu faisais pour ne pas te comparer forcément tout le temps à tes concurrents.
Ouais, c'est très dur. Je vais pas faire le malin. Ça a été aussi pour moi très dur parce que voilà, tout vous rapporte à ça et donc vous avez envie en permanence de penser justement à qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et d'un autre côté, moi, j'ai réussi à tourner ça un peu en moteur, c'est-à-dire que quand il y avait des hivers où je me disais, tiens, ça caille, j'ai pas envie d'aller m'entraîner, je me disais, mais Martikan, il habite en Slovaquie, là-bas il fait 15 degrés de moins, et lui il s'entraîne, donc je vais y aller, et puis je vais pas me plaindre. Et donc quelque part, ça m'a aidé aussi à, de temps en temps, quand j'avais des coups de moins bien et des coups de mou, à me dire, lui, je sais qu'il va être bon, et quelque part, si je veux gagner, il va falloir que je sois très bon. Et donc ça, ça, je pense que grâce à Martican, j'ai pu gagner et j'ai pu être à ce niveau-là. Il n'y aurait pas eu cette rivalité, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Parce que moi, je peux vous dire qu'il m'a accompagné. J'ai pensé à lui, pas tous les jours, mais très souvent. Quoi. Et ça m'a obligé, effectivement, à être très bon. Et donc, ça peut être aussi une source de motivation. Il faut là aussi réussir à bien le gérer. Mm. Pas forcément vouloir se dire, il n'existe pas, je fais comme s'il n'existait pas. Si, il existe. Donc, autant réussir à bien me positionner par rapport à ça, à bien le gérer. Et par contre, il ne faut pas penser tout le temps à lui. Car quand j'étais dans mon canoë, je n'étais pas en train de penser à Martican, j'étais en train de penser à ce que j'étais capable de faire. Je me souviens de ma dernière manche à Londres en 2012, où il passe juste avant moi, donc sur la finale des Jeux. Il fait une manche de malade où il prend la tête avec 3 secondes d'avance et j'entends son résultat et je suis dans le start, il me reste 20 secondes avant de partir. Et je me dis, mais non, c'est pas possible. Jusqu'à la dernière manche de ma carrière, ça fait presque 20 ans qu'on fait du canoë ensemble. Et ben, il aura été présent au rendez-vous, il m'aura obligé quelque part à être le meilleur possible. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que je lui dois beaucoup parce que si je suis à la tête de Paris 2024, c'est aussi parce que j'ai gagné ces 3 médailles d'or et je lui dois aussi ça, quoi.
C'est vrai. Non, mais donc c'est un très beau message, quoi. L'utiliser comme une force plutôt que comme une menace.
Ouais, pas subir les choses, quoi. Essayer d'agir, essayer de s'appuyer. Dans les sports de combat, souvent, on apprend ça, hein, d'utiliser la force de son adversaire.
C'est vrai.
Il ne faut pas résister contre des choses qui s'imposent à vous. Il faut essayer d'utiliser, faire avec et voir comment on peut, au contraire, être plus malin que l'adversaire, quoi.
Tu parlais de tes 3 victoires, 3 merveilleuses médailles. Il y a eu un échec, j'aime pas le terme, mais c'est vrai qu'on oppose souvent le succès à l'échec. En tout cas, une médaille que tu n'as pas remportée en 2008. Tu as vécu un peu, je pense, le pire
c'est ça.
Qu'on puisse vivre quand on est athlète.
C'est ça.
C'est quoi, à ce moment-là, tes sentiments? Comment tu fais pour pas perdre la face? C'est super dur, quoi. 4 ans de préparation, pour même si, comme tu dis, tu as pris du plaisir à l'entraînement et tout, il y a quand même cet objectif-là qui n'est pas atteint. J'imagine que ça t'apprend la résilience, mais sur le moment, généralement, on n'a pas ce recul, quoi.
C'est très dur, c'est violent, effectivement. Moi, en plus, j'avais choisi de passer à côté des jeux où j'étais porte-drapeau, donc j'étais censé quand même être un peu l'une des grandes chances de médaille. Donc ça a été effectivement très dur. Je me suis posé la question du coup d'arrêter ma carrière, donc ça a quand même bien chamboulé ma vie pendant quelques semaines et quelques mois, parce que on va pas se cacher, c'est un investissement énorme pendant 4 ans. Quand vous passez à côté de cet objectif-là, vous pouvez pas dire que c'est pas grave, quoi. Bien sûr que c'est grave et là aussi, je pense que ma carrière ne serait pas aussi forte si j'avais pas vécu Pékin, parce que derrière, ça m'a obligé à me remettre en question, à me relever. Là où j'étais quand même un peu perdu, entre guillemets, je n'avais plus trop confiance, je ne savais plus trop si j'étais capable, parce que j'avais 30 ans. Et le fait de me relever de ça, de repartir et de gagner la médaille d'or 4 ans plus tard avec mon frangin, au final, ça apporte une confiance très forte. Et aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, quand il y a un coup dur... Je relativise aussi parce que je sais que ça arrive et que derrière on peut réagir et on peut s'en sortir, entre guillemets, quoi.
Ouais.
Donc, sur le moment très compliqué, mais derrière ça m'a une très bonne leçon d'humilité, parce que ça m'a obligé de me demander pourquoi je m'étais planté, qu'est-ce qu'il y avait merdé, entre guillemets, excusez-moi, mais et comment tirer des enseignements de tout ça pour être meilleur plus tard. J'ai trouvé ça hyper intéressant, et pourtant c'était pas la première fois que je me plantais sur une compétition, mais au jeu, c'est vrai que pour moi c'était les jeux, c'est un peu ma vie, et de se planter au jeu, c'était quelque chose d'inenvisageable. Et je me suis bien planté, et derrière ça a été hyper intéressant de se relever de ça.
Ouais, et justement, est-ce que dès le lendemain tu te remets en selle, ou tu te dis qu'il y a un sas, en fait, de moment où tu dois vivre un peu ce sentiment de lose.
Ouais,
hein,
c'est ça.
Parce que je trouve qu'il y a parfois trop le réflexe du rejet, des émotions, bah non, ça va pas me servir de morfondre. Et en fait, j'apprends moi au fur et à mesure que si on les laisse pas passer, ces émotions-là, en fait, elles font surface à un autre moment, quoi.
Ouais, il faut les vivre, en fait. Il faut les vivre, il faut apprendre à vivre les choses pleinement et à pas les rejeter, effectivement. Et oui, à ce moment-là, moi, j'étais pas heureux, quoi. J'étais pas content, j'étais pas bien, et c'est normal.
Et tu n'en as pas voulu, quoi, de...
Non, j'ai pris du temps. Hein. Je crois que j'ai pris presque 3 mois avant de décider de repartir et finalement de continuer ma carrière.
Ouais.
Parce que j'avais besoin de ce temps-là, de vraiment me poser les questions de est-ce que j'ai encore des ressources pour repartir et comment et qu'est-ce que j'ai envie de vivre si je repars. De retrouver un moteur, une flamme très forte, parce que la flamme, elle était éteinte. Quoi.
Bah ouais,
j'étais un peu atomisé. Ouais. Mais avec du recul, c'était génial de le vivre, parce que ça m'a fait vivre des choses assez exceptionnelles, et ça m'a obligé à réagir, et d'aller puiser en moi des choses que j'avais encore jamais vécues, et que l'échec, finalement, c'est pas si grave. Si derrière on le gère, on l'assume, on l'accepte et surtout on en tire des enseignements.
Ouais.
Et voilà, sur le moment, j'étais anéanti et je m'en voulais énormément. Mais au final, je me dis que je pense que j'ai vécu Londres derrière aussi grâce à Pékin. Et parce que sinon, je pense que j'aurais arrêté ma carrière si j'avais gagné à Pékin.
Ouais.
L'idée, c'était d'arrêter, quoi.
Ouais, okay.
Mais je ne voulais pas arrêter sur un échec. Et cette frustration était trop forte. Et donc, je suis reparti. Je pense que c'est vraiment l'Olympiade où j'ai le plus progressé, quoi, sur ma dernière Olympiade. Là où tout le monde me disait, et je pense que toi, c'est peut-être le cas aujourd'hui, mais non, tu ne vas pas y arriver, ou ce n'est pas possible. Encore une fois, à ton âge, tu as déjà fait 3 fois les Jeux, tu en as gagné 2, c'est déjà pas si mal. Qu'est-ce que tu risques de repartir 4 ans et du coup de te replanter dans 4 ans et la frustration sera encore plus grande. Et ça, il faut réussir à écouter un peu son envie profonde et aller au combat.
Mmh. On parlait du sentiment... d'échec entre guillemets que tu as vécu, mais je pense que pas mal de gens se demandent aussi qu'est-ce qu'on ressent quand on est sur le podium et qu'on a une médaille d'or, tu vois, qu'on entend son nom et qu'on reçoit la médaille.
Ah ouais, alors moi, Sydney en 2000, ma première médaille d'or, c'était effectivement le rêve qui se réalise, quoi. Parce que là, ça faisait quand même un paquet d'années que pour moi, les Jeux, ça restait un truc un peu inaccessible. C'était les stars à la télé, les Carl Lewis, les Jordan, ces stars américaines qu'on voyait tous les 4 ans à la télé. J'étais fan. Et quand enfin ça se réalise, et effectivement, ce qui est très fort, c'est que souvent, y a une telle effervescence que le premier moment entre la ligne d'arrivée et où vous êtes un petit peu seul, c'est le podium. Parce que, en fait, à l'arrivée, quand vous gagnez, tout le monde vous tombe dessus, il y a les interviews, là, ça, y a une espèce de folie que vous n'avez pas du tout anticipé. Et après, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on vous dit, allez, stop, faut se changer, il faut aller sur le podium. Et là, pendant 10 minutes, et moi, ça a été le premier moment où j'ai réalisé ce que j'avais fait, ce qui était en train de m'arriver, que ma vie était en train de changer, entre guillemets, parce que j'avais atteint un truc hyper puissant et vraiment, pour moi, qui comptait. Et c'était hyper émouvant, en fait, parce que c'est un moment avec moi-même et où j'ai... Ouais, c'était la première fois que je pleurais à l'intérieur, quoi.
Ouais.
Il y avait un truc qui se passait qui était dingue et hyper puissant.
C'est beau. C'est ça qui est beau dans le sport, franchement, c'est que ça fait vivre des émotions qu'on peut pas vraiment vivre ailleurs. Et je trouve que parfois, en entendant des sportifs en parler, on peut le vivre un peu, tu vois, par procuration. C'est toi l'effet que ça me fait, donc merci de ce partage. Du coup, tu finis quand même par un moment prendre ta retraite sportive.
Ouais.
Là aussi, je pense que ça doit être très dur. Et c'est le cas même pour des personnes pour qui un projet s'arrête. Comment, tu vois, quelque chose que t'as défini pendant aussi longtemps, comment tu fais pour ne pas... déprimé, hein, ou alors est-ce que tu as déprimé, mais en tout cas, voilà, rester avec ces très beaux souvenirs et se dire qu'il n'y a pas, non, il n'y a pas la meilleure partie de notre vie qui est finie. Comment on fait pour avoir une autre flamme quand celle qu'on avait s'éteint un peu au final avec l'arrêt de cette
carrière. Souvent l'un des enjeux des sportifs de haut niveau, parce que c'est vrai qu'on a développé une expertise très forte, très particulière, très spécifique dans un domaine. et on a souvent l'impression qu'on est incapable de faire autre chose. Mmh. C'est-à-dire qu'on a passé 20 ans à s'entraîner tous les jours dans un sport, le canoë et kayak. derrière, comment est-ce que je vais réussir à m'appuyer sur ça pour faire autre chose ? Moi, c'est vrai que c'est une question qui m'a beaucoup travaillé sur la dernière ligne droite avant les Jeux de Londres. C'est aussi pour ça que je me suis fixé cette ambition d'essayer de rentrer au CIO, parce que j'avais quand même envie de me reconvertir dans le sport. Mm-hmm. Le sport avait changé ma vie, j'avais l'impression que c'était là que j'avais envie de m'investir et de travailler. Donc pour moi, le premier enjeu, entre guillemets, c'était d'essayer de devenir membre du CIO à la fin de ma carrière, donc à partir des Jeux de Londres, pour mettre un pied dans cet univers sportif, mais dans un mode reconversion. Donc ça a été mon projet, alors que j'étais encore athlète, de transition, d'essayer d'être élu à la commission des athlètes. Donc c'est les athlètes qui participent aux Jeux qui élisent des représentants d'athlètes. Ça m'a permis donc de rentrer au CIO, et à partir de là, de connaître un peu les instances internationales. Donc j'ai travaillé sur la lutte antidopage, j'ai travaillé sur la partie un peu développement durable du sport, j'ai travaillé sur les modèles économiques. Enfin, c'était hyper intéressant pour moi. Et ça m'a permis ensuite de rentrer à Paris 2024, quand le projet est né, quand il y a eu cette ambition d'être candidat pour organiser les Jeux en 2024, parce que j'étais triple champion olympique, parce que j'étais membre du CIO, cette reconversion était possible. Mmh. Et donc c'est comme ça que j'ai un peu essayé d'anticiper les choses.
Ouais, donc il y a quand même un aspect de préparation, pas attendre le dernier moment. Ouais. Parce qu'en effet, là, tu peux être plus dos au mur.
Vrai que le message souvent que j'essaie de donner aux athlètes, c'est ne séparez pas votre carrière sportive et vos études. Je pense que c'est en train d'évoluer. Aujourd'hui, il y a moins ça, mais il y a 20 ans, on entendait trop souvent de la part aussi d'entraîneurs et de fédération, le fait qu'il fallait choisir. Mmh. On ne pouvait pas faire les deux. Alors moi, dans mon sport, la question ne se posait pas parce qu'il n'y avait pas d'argent tellement dans le canoë et kayak. Donc moi, j'étais obligé de continuer mes études et de préparer la suite. Mais même globalement, je pense que c'est ça qui m'a permis d'être bon dans mon sport. C'est parce qu'à côté, pour gérer le stress, pour relativiser les choses, j'avais des études. J'avais des moments, entre guillemets, dans l'année où je voyais un peu d'autres personnes, d'autres moments, et ça me permettait de relativiser aussi les échéances sportives qui arrivaient. Donc c'était hyper compatible, et voire même ça m'a aidé, je pense, à progresser dans les deux, à mieux gérer les échéances.
Ok, trop cool. Non, mais je pense qu'en effet, de manière générale, c'est vrai qu'on a tendance à avoir l'impression qu'on a des choix à faire si on veut devenir le meilleur dans un domaine, alors qu'en fait, ça s'est nourri quoi, au final pour
Exactement.
Toi. Les deux t'ont apporté, que ce soit dans le sport et après dans le business au final, plus aujourd'hui. Quoi.
Pour réussir dans sa vie, il faut être épanoui. Et pour être épanoui, je pense que c'est un tout. Donc il y a la vie perso, il y a la vie sportive, il y a la vie professionnelle, académique. Et je pense qu'on ne peut pas cloisonner les choses. Quoi. On est des êtres vivants, on est des animaux qui ont qui ont des émotions et qui doivent gérer tout ça. Et c'est chouette.
Ouais,
quoi.
Ouais,
j'ai entendu des choses des fois. J'étais papa pendant ma carrière. On me dit, mais est-ce que c'est pas un risque, entre guillemets, comment tu vas gérer ça? Mais c'est pas grave en fait, j'ai envie de le vivre et vivons-le, et c'est très bien. Et quand on arrive à le gérer, c'est une force en fait.
Ouais.
Parce que ça permet justement de grandir, d'avoir une force supplémentaire. Et du coup, sur le moment présent, après, de l'investir. Quoi.
Ouais. Du coup, après, tu nous partages un peu ta nouvelle vie qui est avec Paris 2024. Quand est-ce que tu te dis que tu as envie de rejoindre cette aventure, et quand est-ce que tu commences vraiment à croire au projet? Parce qu'au final, il y a eu 5 candidatures avant, les 5 n'ont pas abouti, et donc on parlera de la victoire, mais qu'est-ce qui te fait dire, là, je sens que moi j'ai un truc à apporter et qu'on peut le faire?
Ouais, moi, effectivement, je me souviens, quand j'étais athlète, d'avoir rêvé de pouvoir faire les Jeux dans mon pays, et donc de finir potentiellement ma carrière en tant que sportif en activité sur des Jeux en France, et d'avoir eu cette frustration, finalement, que les candidatures françaises ne puissent pas l'emporter. Et donc, quand j'ai arrêté ma carrière et que, effectivement, cette idée a germé, je me suis dit, mais bien sûr qu'il faut que je m'investisse là-dedans, parce que j'ai vécu les Jeux, J'ai vu ce que ça a apporté dans les pays où je suis allé et quelque part cette symbiose entre la population et les athlètes de ce pays. Et voilà, moi je me souviens très bien en Australie, mais c'était dingue quoi. Il y avait une espèce de fête populaire autour du sport et les Australiens hyper fiers de leur pays grâce aux Jeux. Donc j'ai pas hésité une seconde quand on m'a dit « Est-ce que tu veux faire partie de cette équipe qui va travailler sur une éventuelle nouvelle candidature ?» parce que je crois vraiment, encore une fois, au sport, à ce qu'il peut apporter à la société. Et cet événement, pour moi, est une chance et une opportunité parce que c'est la possibilité de démontrer ce qu'un pays est capable de faire en termes d'organisation, d'attractivité, de proposer des émotions, de fédérer. On va être regardé dans le monde entier, on va accueillir le monde ici, plus de 200 pays. Quelle chance, entre guillemets, pour la France de montrer le plus beau visage de notre pays, nos valeurs, de les partager avec le monde. Moi j'ai pas hésité une seconde. Par contre, ça a nécessité pour moi une vraie adaptation parce que c'était pas mon univers. Le côté partenariat avec des grandes entreprises, le côté politique, j'avais aucune expérience dans la politique. Or, j'ai été tout de suite, rapidement confronté à devoir travailler avec des hommes et des femmes politiques. Donc c'était un défi, un nouveau défi pour moi.
T'aimais les défis au final, tu l'as plutôt bien relevé. Comment tu t'as fait pour progresser sur ce projet-là ? Parce que autant dans le sport, il y a plus à mon avis une marche à suivre, des entraîneurs, tu vois, t'étais accompagné, tu savais entre guillemets ce qu'il fallait faire. Autant là, tu savais pas vraiment. Donc comment tu l'as abordé ? Est-ce que tu t'es dit bah tant pis, on fait, on réfléchira après, ou est-ce que tu t'es dit je vais quand même essayer de, je sais pas, de me former, de progresser comme ci comme ça ?
Oui, bien sûr. Bah, en fait, j'ai là aussi réutilisé, réinvesti un peu ce que j'avais appris dans ma vie antérieure en tant que sportif de haut niveau. Et pour réussir dans le sport de haut niveau, on peut pas réussir seul entre guillemets. Donc j'ai essayé à Paris 2024 de rester à ma place et j'ai franchi entre guillemets les étapes petit à petit. Au début, j'étais plus sur la mobilisation des athlètes parce qu'on voulait que ce projet ait une identité un peu plus sportive, avec plus d'athlètes impliqués. Donc ça a été un peu mon premier rôle. Et puis après, on m'a dit bah, t'es membre du CIO, tu parles un petit peu anglais, donc tu vas aussi t'occuper du lobbying et d'aller présenter le projet à la communauté internationale parce qu'on a besoin qu'ils aient une bonne perception de cette sixième candidature et qu'on leur explique pourquoi on est candidat. Donc j'ai fait un peu ce tour du monde pour aller rencontrer les décideurs dans les différents pays pour leur expliquer pourquoi on pensait que la France était le bon choix. Et puis j'ai appris. On a une équipe incroyable qui est mobilisée dans ce projet avec des gens qui ont déjà organisé des échéances, notamment des Jeux. On a des profils internationaux, on a des profils qui viennent d'entreprises, on a des profils qui viennent de grandes administrations françaises. Donc moi je suis au milieu de tout ça, j'écoute, j'apprends et puis de temps en temps je dois un peu arbitrer quand il n'y a pas de consensus et j'essaie là aussi de faire en fonction de ce que moi je ressens, de ce que j'ai appris et de ce qui me paraît être le bon sens pour Paris 2024.
Qu'est-ce qui a fait, tu penses, que cette sixième candidature l'a emportée, a été retenue et pas les cinq précédentes? C'est vrai que du coup, moi j'ai pas mal vécu au travers de mon enfance les échecs un peu successifs. Alors je m'en souviens pas tant que ça.
Tu devais être très jeune.
Ouais, j'étais assez jeune, mais en tout cas, je me souviens d'une fois en particulier. Je pense que c'était pour la candidature de Paris, quand Paris était face à Londres. Et comme ça, à la télé, il y avait ce monsieur connu, mais je ne sais plus qui c'est, qui était là avec sa bouteille de champagne. Tu vois, on était avec mes parents, on regardait le compte à rebours. Et là, quand on a vu Londres, tu sais, c'était un peu comme une élection présidentielle et que ce n'est pas le candidat pour qui t'étais, tu vois. Et genre, je me souviens, le visage s'est décomposé. Ouais. Tu vois, tu sentais vraiment...
L'effondrement
le rêve qui part en fumée. Et ça m'a vraiment marqué, quoi. Je me suis dit, ah oui, en fait, les JO chez soi... C'est vraiment un truc de fou et ce serait vraiment dingue, en plus j'ai toujours habité à Paris, tu vois, que Paris accueille les Jeux une année. Donc là, de se dire que ça va arriver, donc c'est dingue. Et tout ça pour dire, qu'est-ce qui fait à ton avis que là, on n'a pas vu la déconfiture, mais plutôt les sourires?
On s'est beaucoup appuyé effectivement sur Paris 2012 et tout ce qui avait été fait, parce qu'à l'époque, ils avaient perdu face à Londres, mais... on avait perdu, parce que quand même on était on est français aussi dans la défaite, donc on avait perdu de très peu face à Londres. Et quelque part, nous, on a réutilisé beaucoup de choses du dossier de candidature de Paris 2012 à l'époque, parce qu'il était très bon. On a essayé de progresser un peu sur les quelques chapitres qui nous ont été reprochés à ce moment-là. C'était d'avoir plus de profils sportifs, de meilleures connexions avec le sport et un peu moins avec la politique, d'essayer de travailler vraiment ensemble pour montrer une France unie qui a envie d'accueillir le monde et avec un modèle aussi peut-être un petit peu plus durable. Donc on s'est autorisé avec Paris 2024 à proposer des jeux un peu en rupture avec ce qui s'est passé dans les dernières éditions, où on va utiliser 95% d'infrastructures qui sont déjà existantes. Donc là où depuis 20 ans, 30 ans, souvent on a expliqué qu'on avait besoin des jeux pour construire des équipements sportifs, nous on dit à Paris 2024, on ne va pas construire juste pour une compétition. On va utiliser l'existant parce qu'on veut des jeux plus sobres d'un point de vue financier, d'un point de vue environnemental. Donc on est aussi en rupture, entre guillemets, avec ce qui s'est fait dans le passé. Et on reste très ambitieux avec des moments, des temps forts, des cérémonies d'ouverture en ville, des épreuves au pied de la Tour Eiffel, dans les jardins du château de Versailles, réussir à marier, entre guillemets, le patrimoine culturel qui fait la fierté de notre pays avec les émotions du sport. Donc ça, c'était important. On gagne sur ces points forts, souvent. C'est quelque chose que j'ai appris aussi dans le sport de haut niveau. Hein. Tout sportif a des points forts et des points faibles, mais c'est souvent sur les points forts qu'on gagne. La France a des points forts incroyables, et donc il fallait peut-être qu'on les exprime un petit peu mieux dans le dossier de candidature, et je pense que c'est ce qui a fait la différence en 2024.
C'est vrai que ça, on ne le partage pas assez, et je l'ai entendu récemment dans plusieurs podcasts, le fait qu'on a tendance parfois à vouloir compenser à tout prix ses points faibles, et pas forcément à travailler ses points forts parce qu'on se dit qu'on est déjà bon dedans, mais en fait on fait rarement la différence en étant plutôt bon partout. Ouais, moyen partout. Ouais. On n'a pas envie, souvent, c'est de l'ego, de ne pas être fort dans un domaine, où on veut réussir à tout maîtriser, alors qu'en fait, on a tout intérêt à reconnaître qu'il y a des domaines, c'est pas notre truc, et se concentrer à fond pour développer les points où on est meilleur, quoi.
Ouais, tout à fait. Souvent, on est dans la comparaison avec les autres, et quand on se trouve un peu moins bon dans un domaine, on veut travailler ça absolument. Alors que, moi, je pense qu'il faut effectivement faire la différence sur ses points forts et de temps en temps laisser un peu la comparaison avec les autres pour dire voilà, c'est quoi moi ce que je là où je peux faire la différence. Et ça, je trouve que le sport de haut niveau apprend ça, parce que il y a pas photo, quoi. On est obligé de gagner sur ses points forts dans le sport, mais je pense que dans la vie du quotidien c'est aussi un peu la même chose, et je trouve qu'à l'école et dans notre éducation il faut assumer quand on est capable de faire la différence, quand on a un petit truc en plus, il faut continuer à le travailler. C'est pas parce qu'on est bon qu'il faut continuer à le travailler, parce qu'en plus souvent c'est source de plaisir, parce que ça génère de la réussite et c'est un cercle,
c'est
vertueux,
et
donc c'est motivant, et souvent on peut continuer à progresser même si on est déjà bon dans un domaine.
Carrément, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, à l'école, enfin voilà, vu que moi c'est il n'y a pas si longtemps que ça, c'était vraiment moi j'étais plutôt bonne dans les matières littéraires et moins dans les matières scientifiques, mais du coup j'ai passé franchement mes années à essayer de compenser ce retard. Alors
et
que
à faire
tu vois,
des maths.
Et comment ?
Et à faire des maths.
Ouais, à faire des maths, alors que ça me plaisait beaucoup plus de faire de l'histoire ou du français. Et c'est vrai que je me demande, tu vois, si en fait, assez tôt, les spécialités, on les choisissait peut-être avant, ou en fait, plutôt que d'attendre d'avoir 16-17 ans pour plus se concentrer sur les matières où on est meilleur ou qu'on aime plus, on choisissait un peu plus tôt, on gagnerait peut-être du temps et donc des compétences dans ces domaines-là qui nous intéressent beaucoup plus au final, quoi.
Ouais, tout à fait. Je pense qu'on met trop l'accent sur ce qui ne va pas.
Ouais.
On aime bien ça.
Ouais.
Et pourtant, il y a des choses qui vont bien. Et on a un peu plus de mal à les valoriser. Et c'est dommage, parce que je pense que c'est comme ça qu'on s'épanouit, c'est comme ça qu'on réussit. Et c'est comme ça qu'on fait des choses exceptionnelles. Et on a besoin de ça. Donc nous, voilà, avec Paris 2024, là, on essaie d'identifier ce qui va faire la différence, ce qui vont faire de ces jeux des jeux uniques, spectaculaires qui vont rendre les Français fiers. Et voilà, il faudra qu'on accepte qu'il y a d'autres aspects où peut-être nos jeux seront un peu moins bons. Et c'est comme ça, et c'est pas très grave, tant qu'on a réussi à être au rendez-vous sur le reste.
Tu fais un peu ce qu'on disait, hein, faire le mieux que tu peux avec ce que tu as. Bon, vous avez déjà quand même pas mal. C'est quand même une aventure assez unique en son genre, sur plein d'aspects. Mais c'est vrai que quand j'ai vu un peu les chiffres des effectifs sur le fait que vous étiez 40 en 2018 et que vous allez être 4000 d'ici 2024, je me dis, waouh, comment on aborde ça en tant que dirigeant, quoi ? Comment on se dit qu'on peut réussir à tenir cette croissance ? Et voilà, toi, comment tu vis au quotidien ? Pareil, comment tu te fais pas dépasser par le « est-ce que je vais être à la hauteur ?» Enfin, c'est quand même un projet... là, pour le coup, tu voulais de l'ambition.
Ouais, non, le défi, il est là. Ouais. Le défi, il est là. C'est sûr que c'est une énorme responsabilité. Et encore une fois, je m'appuie sur des expertises avec des gens qui... ont été à la tête de ressources humaines dans des très grandes boîtes avec des milliers de personnes, donc ils savent, entre guillemets, gérer ça. Moi, j'ai jamais géré ça, donc j'essaie de faire confiance aussi. Alors, j'ai recruté des directeurs en charge, j'ai été accompagné, bien évidemment, avec des cabinets aussi de recrutement pour essayer d'avoir plusieurs profils. Et puis ensuite, j'ai choisi ceux qui me paraissaient être les mieux placés, entre guillemets, pour apporter dans un collectif. Donc aujourd'hui, on est un comité de direction qui a cette responsabilité. Mais c'est juste incroyable et formidable de vivre ça, parce que c'est vrai que c'est une aventure absolument incroyable. C'est 4000 personnes qui vont être responsables d'accueillir ces 15 000 athlètes venus de 206 pays. On va avoir plus de 13 millions de billets à vendre. C'est le plus grand programme de billetterie et le plus grand événement que la France ait jamais organisé. 45 000 volontaires. Là aussi, c'est le plus grand programme de volontaires qu'on va gérer et que la France ait jamais eu à gérer. Sur la partie transport, sur la partie sécurité, enfin, à chaque fois, ça nécessite de mobiliser beaucoup de services. Et c'est assez passionnant parce que c'est comme ça qu'on progresse, en faisant des choses un peu exceptionnelles, un peu hors normes. Je trouve que dans le passé, dans notre histoire, on a eu ces moments de grandes expositions universelles. À l'époque, quand on construit la Tour Eiffel juste pour une expo, il faut quand même oser, quoi.
Ouais.
Et c'est le Grand Palais, et c'est des choses qui sont juste dingues.
Ouais. On n'a plus trop dernièrement, c'est vrai.
Aujourd'hui, on a plus de mal à assumer ça. Et moi, je pense que c'est chouette, tout en étant, encore une fois, exemplaire sur les émissions carbone, et on veut réduire de moitié ces émissions carbone pour les Jeux par rapport aux Jeux de Londres, notamment. Donc on veut vraiment essayer d'être exemplaire, mais pour moi, on doit être ambitieux. Et l'écueil aujourd'hui qui, entre guillemets, pourrait nous arriver, c'est ce manque d'ambition. Parce que tout au quotidien, on l'a vu, la crise sanitaire, en ce moment, il se passe autre chose. Et c'est vrai qu'il faut qu'on reste ambitieux, parce que c'est notre responsabilité de repousser les limites, de faire des choses un peu exceptionnelles et de s'y autoriser. Parce que c'est ce que l'histoire retiendra.
Très belle phrase. Tu peux nous parler un peu du club de Paris 2024, parce que j'ai trouvé que c'était une super idée et je pense que peut-être les personnes qui nous écoutent ne sont pas forcément au courant. Tu peux nous parler de ce que ça change, de comment on peut peut-être y participer
Ouais, en fait, nous on s'est rendu compte que ce qui était important dans le cadre de ces Jeux de Paris 2024, ça fait 100 ans que la France n'a pas organisé des Jeux d'été, donc c'est vrai que c'est rare d'avoir cet événement dans notre pays. Et donc depuis le début, on est dans cette idée d'avoir une direction de l'engagement pour donner la possibilité à tous les territoires et toutes les personnes qui ont envie de participer à l'aventure d'y être. Et donc aujourd'hui, on a effectivement créé un club qui s'appelle le Club Paris 2024, qui est un espace gratuit, digital. Il suffit d'aller sur notre site et de s'inscrire. Et quand on est membre du club, on se voit proposer des moments un peu d'exception, d'aller rencontrer les athlètes pendant leurs entraînements, d'aller porter la flamme pendant le relais de la flamme, de pouvoir courir le marathon des Jeux. Si on aime la course à pied pour la première fois dans l'histoire, le marathon des Jeux, c'est-à-dire le dernier jour sur le même parcours, Il y a des dizaines de milliers de personnes, de fans qui vont pouvoir vivre une expérience olympique en participant à ce marathon pour tous. Et aujourd'hui, le seul moyen, c'est d'être membre du club. Donc voilà, c'est des moments un peu d'exception. Si vous aimez un sport, si vous aimez un athlète, si vous avez envie d'être connecté à ce projet pour savoir ce qui s'y passe, pour savoir si vous voulez être volontaire et participer en tant qu'acteur pour accueillir les athlètes, accueillir ces délégations, ben, venez nous rejoindre au sein du Club Paris 2024. C'est gratuit et on vous proposera voilà, des expériences assez inoubliables. On a fait des moments avec Teddy Riner, avec Tony Parker, avec Florent Manoudou, dans plein de sports différents. Il y a régulièrement voilà, des moments, je ne sais pas si toi, tu aimerais bien rencontrer un athlète ou une athlète et t'essayer à son sport. Mais c'est ce qu'on va vous faire vivre, à la fois sur les Jeux Olympiques, mais aussi sur les Jeux Paralympiques. C'est important pour nous de parler des Jeux Paralympiques, parce qu'on a là aussi des athlètes d'exception. On a une équipe de France qui est juste incroyable, qui sont voilà, des athlètes extrêmement forts dans leur domaine, avec des leçons de vie souvent aussi qui sont très belles. Mmh. Et on a envie que les Français connaissent mieux cet événement paralympique, connaissent mieux les athlètes paralympiques. Et aujourd'hui, le Club Paris 2024 vous offre cette possibilité d'en savoir un petit peu plus.
Bon bah super, je mettrai le lien pour aller découvrir tout ça dans les notes du podcast. Pour revenir un peu aux questions de la fin, des questions un peu plus perso, on va dire. Est-ce que tu as gardé des routines, des habitudes de ton passé de sportif? Tu vois, au quotidien, est-ce qu'il y a des trucs que tu gardes qui t'aident à être un peu la meilleure version de toi-même?
On en a un petit peu parlé déjà, mais c'est cette capacité d'adaptation, c'est-à-dire que moi j'ai une rigueur très forte du quotidien, d'essayer de verrouiller, de bétonner, d'être très rigoureux, mais tous les jours j'essaie de rester ouvert sur ce qui se passe autour de nous et voir comment on va pouvoir s'adapter, parce que c'est, je pense que c'est comme ça qu'on va réussir. Mmh. Et c'est vraiment ce que j'ai appris de ma vie d'avant. Donc c'est cet équilibre entre je planifie, mais je sais aussi que ça va pas se passer
comme la planification,
voilà, ouais. Et qu'il va falloir s'adapter, quoi.
Tu veux continuer à faire du sport?
Un petit peu, ouais, quand même.
Allez, le moment confession.
Non, ouais, j'en ai besoin. Franchement, ouais. C'est comme ça que je me régénère. C'est comme ça que je retrouve de l'énergie quand je suis un peu fatigué. Mm-hmm. Donc, je continue à faire du sport de nature. J'aime ça. J'ai besoin de ça.
À Paris, t'arrives à faire du sport de nature?
Alors, voilà, c'est plutôt les week-ends quand je redescends dans le sud-ouest. À Paris, bon, là, je me déplace en vélo. Donc, je fais un peu de vélo tous les jours. Mais voilà, c'est plus pour prendre un petit peu l'air. Mais sinon, dès que je peux, voilà, c'est sport, nature, canoë-kayak, ski, vélo, voilà, tous ces sports de glisse que j'aime bien et qui me font du bien et dont j'ai besoin, en fait.
Ouais, ouais. Non, mais c'est souvent, en effet, quand on prend le pli du sport, c'est pour ça que je me demandais, quoi, est-ce que tous les matins, tu fais encore, je sais pas, 30 minutes Mais bon, dans un emploi du temps aussi serré,
ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est pas simple, mais j'essaie qu'en tous les cas, d'avoir tous les jours un peu de temps où je me bouge pour évacuer, pour aller chercher de l'énergie, parce que sinon, je suis pas bien, en fait. Au bout de quelques jours, si j'ai pas du tout bougé, je suis pas bien, et ouais, ça fait partie de mon équilibre. Mmh. Puis bon, voilà, on pousse aujourd'hui ce message qu'il faut faire du sport tous les jours, donc j'essaie quand même de me l'imposer à moi le premier, quoi.
Ouais, mais comme tu dis, c'est une question de bien-être avant tout, hein, et ouais. C'est cool de partager ce message-là. Est-ce qu'il y a des ressources qui t'ont aidé, que t'as envie de recommander aux personnes qui nous écoutent? Ça peut être un film, un docu, un livre, voilà, que tu as envie de conseiller?
Écoute, pour moi, encore une fois, le message aujourd'hui, les moments moi, où ça m'a le plus aidé, c'est des moments de sport. C'est effectivement des moments où j'ai été inspiré par d'autres athlètes. On parlait tout à l'heure de Pékin 2008. Moi, j'ai pris une baffe incroyable où, quelques jours après ma défaite à Pékin, je rentre dans le stade d'athlétisme. Et je vois cette athlète d'exception, jamaïcain, où moi, pendant 4 ans, j'avais essayé de vraiment tout planifier, tout préparer, d'être très méticuleux, de rester dans ma bulle, hyper concentré, hyper sérieux. et je vois cet athlète jamaïcain entrer dans le stade avec cette envie de s'éclater, de prendre du plaisir, d'échanger. Usain Bolt, je trouve qu'il a apporté vraiment quelque chose à l'univers du sport parce qu'en gros, il a été le meilleur démonstrateur qu'on peut réussir en s'amusant, en prenant vraiment beaucoup de plaisir, en relativisant beaucoup de choses. Et il était très sérieux et très fort, mais il était capable aussi de rester très ouvert sur ce qui se passait, d'échanger avec des bénévoles, des spectateurs, des journalistes, ses adversaires même. Et moi, ça a été une claque incroyable à ce moment-là de me dire, mais ouais, j'ai raté ça en fait. Moi, j'ai fait trois fois les Jeux et toujours dans cette méthode où je m'enfermais dans une bulle. Alors, ça a marché deux fois et par contre, à Pékin, ça n'a pas marché. Et si je repars, si je devais recommencer, j'aimerais travailler ça, être capable de réussir en prenant plus de plaisir, en étant plus ouvert. Et donc, voilà, pour répondre à ta question, c'est souvent des athlètes et des moments de sport, des matchs où il se passe des choses qui m'inspirent. Parce qu'encore une fois, c'est mon univers, c'est mon domaine de compétence, c'est là où je me sens bien. Et donc, du coup, c'est là où ça me parle le plus. Et donc, voilà, Marocco, c'est souvent dans les moments de sport, il y a des moments d'émotion qui sont des leçons de vie qui sont très, très fortes.
C'est vrai que, alors, je connais pas bien le parcours du Usain Bolt, mais j'aime bien les personnes qui viennent un peu démonter des règles, encore une fois, qu'on va avoir
des
en tête,
des
idées reçues, il faut faire ci, faire ça pour réussir. Et alors, je sais pas, il y a un truc qui m'a marqué, mais c'est je crois, une fois, il avait été filmé en train de s'enfiler des nuggets juste avant une compète ou juste après, alors que tu sais, t'entends vraiment, il faut avoir un nutritionniste,
ouais,
manger tant par jour, et sûrement que dans des sports comme la boxe ou le poids joue, c'est essentiel. Mais en fait, tu te rends compte que tu peux très bien bouffer des nuggets et quand même être un champion de malade, et qu'il faut peut-être se détacher un peu des, comme ça, idées reçues, il faut.
Exactement, il n'y a pas une seule recette pour réussir en fait. Chacun doit trouver sa voie. Il faut s'inspirer encore une fois de ce qui a marché pour d'autres, des bonnes pratiques. Mais après, il faut trouver sa propre voie et son propre chemin pour réussir et pour s'épanouir. Mais en tous les cas, lui, j'ai trouvé que, c'est quand tu m'as posé la question, là, ça a été vraiment un moment très fort de me dire waouh! Quel courage entre guillemets alors qu'il n'avait pas encore été champion olympique de se pointer dans le stade et de faire un peu le pitre comme ça de défier un peu cette idée reçue très 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 forte que pour réussir il faut être très sérieux j'ai trouvé ça pour moi hyper inspirant.
Est-ce que si tu pouvais entendre deux personnes, normalement je demande qu'une personne, j'ai envie de te dire deux personnes à ce micro. Tu pourrais nous dire qui et voilà, qui est-ce que tu aurais envie d'écouter ?
Alors, je vais rester cohérent avec ce que je viens de te dire et je vais essayer de te suggérer des noms de sportifs. Moi, il y a une athlète là, qui m'a bluffé sur les derniers Jeux d'été à Tokyo. C'est Clarisse Agbeninu, championne olympique de judo. Qui je trouve elle aussi c'est une femme incroyable qui s'engage qui s'est relevée entre guillemets d'une grande déception à Rio où elle n'avait pas gagné, c'est son objectif, où pendant 4 ans ça a été une machine, elle a quasiment tout gagné avec la manière, elle est arrivée avec une pression très forte aux Jeux de Tokyo, porte-drapeau en assumant son objectif de gagner, elle gagne avec la manière tous ses combats. Elle a une pêche incroyable. Je trouve que c'est un super exemple. Là, elle vient d'annoncer qu'elle faisait une petite pause dans sa carrière pour être maman et pour revenir ensuite sur les Jeux de Paris 2024. J'adore ce qu'elle incarne. Elle assume qui elle est et je trouve que c'est hyper, hyper fort. Et donc, tu me demandes un deuxième nom. J'irais bien volontiers sur un sportif peut-être paralympique parce que là aussi il y a des athlètes que je trouve hyper inspirants. Je pense là à Marie Amélie, qui est la présidente aujourd'hui du comité paralympique et sportif français, qui a été aussi, je crois, 5 fois médaillée au paralympique, donc une athlète assez d'exception d'un point de vue sportif, et qui, avant même d'arrêter sa carrière, décide de s'engager dans le mouvement paralympique en devenant présidente du mouvement paralympique français. Donc elle est à la tête aujourd'hui du développement des sports paralympiques pour les personnes en situation de handicap. Donc elle a su mener de front, entre guillemets, sa carrière d'athlète et cette mission, entre guillemets, de responsabilité. Je trouve ça assez bluffant, quoi, des femmes comme ça qui s'engagent, qui réussissent. Voilà, donc
ouais, bah de belles recommandations. Merci. Écoute, j'ai 2 dernières questions pour toi. Si tu pouvais donner 3 conseils à tes enfants, un peu, tu vois, les 3 maximes de vie, ou 3 conseils, si jamais, je sais pas, tu devais ne plus les revoir, que t'aimerais qu'ils retiennent.
Ne dis pas ça.
C'est pour être sûr que, tu vois, le contenu va être fort et puissant. Mais non, voilà, les 3 conseils que t'as vraiment envie de leur partager, qu'ils sachent ça en grandissant.
Waouh, c'est pas simple ça. De s'affranchir des limites et des règles qu'on leur donne. Je pense que moi, le premier, je dois sûrement leur, sans le vouloir, une forme un peu de pression à vouloir suivre une certaine voie, peut-être d'aller dans le sport. Donc, premier conseil, c'est faites votre vie, entre guillemets, et... vraiment, n'ayez pas peur. Je pense que moi, ce que je pense le plus important, c'est de s'engager, c'est de faire, voilà, de tenter les choses. On a le droit de se tromper, on a le droit de pas réussir, mais c'est d'essayer. Voilà, moi, le premier conseil, c'est allez-y, quoi. Faites ce que vous avez envie de faire. Deuxième conseil, c'est on réussit pas tout seul. Donc, n'hésitez pas, il n'y a pas de honte à demander conseil, à demander de l'aide, à partager avec d'autres. Voilà, ce côté collectif, en fait, c'est tellement plus fort. Et le troisième, ouais, pas de pression, quoi. Pas de pression. La vie, elle est belle et ça va bien se passer. C'est-à-dire que je trouve qu'on a un peu tendance à mettre sur les générations futures une espèce de stress, de dire ouais, ça va être dur pour vous, quoi. Tout ce qui se passe, les incertitudes. Non, moi, j'ai envie qu'ils soient optimistes dans la vie et qu'ils soient convaincus que la vie, elle va être belle et que ça va bien se passer, quoi. Mmh.
Bon, bah on leur passe le message, hein, et à toutes les personnes qui nous écoutent. Écoute, j'ai posé la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie?
Ah, prendre le pouvoir de sa vie. C'est justement cette idée de s'engager dans sa vie, de ne pas la subir, d'être acteur de sa vie. Pour moi, c'est un peu de se faire confiance, même si cette notion de se faire confiance, elle est compliquée, parce que la confiance, c'est, là aussi, c'est assez abstrait, c'est assez fragile. Mais c'est cette idée de j'agis, prendre le pouvoir de sa vie, c'est accepter d'avancer en tentant des choses, en s'engageant, et pas être forcément à subir et à suivre, voilà, se lancer des défis pour essayer de reboucler avec la première question.
C'est ça.
voilà, prendre le pouvoir de sa vie, c'est se lancer son propre défi qui n'a pas à être à comparer avec le défi des autres, mais se mettre au défi d'agir et d'avancer.
Génial. Bah écoute, merci beaucoup, c'était super cette conversation avec toi.
Merci,
Louisa. Je pense que ça a inspiré pas mal d'auditeurs, d'auditrices. Si jamais ils veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige?
Sur mon compte Instagram, comme ça.
C'est
peut-être
Tony Estanguet, je crois.
Ouais, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et puis... puis voilà, poser des questions. Et
je mettrai aussi le lien vers le club.
Et le club, ouais, c'est vrai que si vous voulez être connecté à Paris 2024, c'est le meilleur endroit aujourd'hui où trouver de l'info et ne pas passer à côté des belles opportunités de ce projet.
Super. Bah, merci beaucoup, Tony, pour ce moment et j'espère à très vite.
Merci, Louise, à bientôt.
Bravo, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode et c'est peut-être qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le partager en story ou en post sur Instagram en nous taguant @tonyestangui et @mybetterself pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Et si vous souhaitez continuer à être inspiré, il y a plus de 200 épisodes d'InPower qui sont disponibles gratuitement. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Et je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.